Elle constitue à elle seule un maillage souterrain invisible dans lequel il n'y aurait sans lequel il n'y aurait pas d'espèces végétales sur Terre. Elles, ce sont les racines. Apparues il y a plusieurs centaines de millions d'années, ces racines jouent à la fois un rôle clé dans les cycles de vie d'une plante, mais permettent également de stocker du carbone. Si on ajoute à cela le fait qu'elles s'organisent par symbiose avec des bactéries et des champignons sur des réseaux aussi vastes que des forêts, on se dit qu'elles méritent bien tous nos soins et toute notre attention. Racine, 20 000 liens sous la Terre, c'est notre programme souterrain et en réseau pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ces systèmes racinaires, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Catherine Roumet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enchantée. Vous êtes chargée de recherche CNRS au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. Avec nous également Philippe Insinger. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche et chef du département agro-écosystème à l'INRAE de Montpellier. Mais avant d'entamer cette discussion autour des racines, il est l'heure de retrouver celle qui fortifie les branches de nos connaissances en nous apportant chaque jour la sève de l'actualité scientifique. Il s'agit de Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha.
Bonjour Antoine.
Et on commence ce journal avec le sujet du jour. Aujourd'hui, les anciens journalistes de Science et Vie lancent un nouveau magazine scientifique.
Et la rédaction de Science et Vie n'avait pas dit son dernier mot. Il y a un an et demi, ce titre centenaire a été racheté par le groupe Reward Media, un groupe aux pratiques décriées. Mélange de publicité avec de l'éditorial, suppression et externalisation des rédactions. Pendant un an, les journalistes ont lutté pour tenter de garantir la qualité éditoriale de ce média. À l'automne dernier, le directeur de rédaction, Hervé Poirier, démissionné, suivi de près, en mars, par la démission de la quasi-totalité de la rédaction. Alors on vous a beaucoup parlé de l'histoire de nos confrères, car ces dérives ne concernent pas seulement la presse scientifique. Mais voilà, ces 11 journalistes se sont réunis et lancent un nouveau magazine d'actualité scientifique, Epsilon, pour une presse scientifique indépendante, engagée et exigeante, c'est le leitmotiv de ce nouveau mensuel. Leur nouvel éditeur, Unique Héritage Média, est un éditeur indépendant. L'opération de financement participatif commence aujourd'hui sur la plateforme Ulule. Et en moins de 24 heures, il y a déjà plus de 5000 abonnements. Le premier numéro, diffusé à 100 000 exemplaires, est attendu dans les kiosques le 23 juin.
Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver les liens vers les articles dont on parle dans le Journal des Sciences et pendant l'émission sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et vous pouvez réécouter ou podcaster l'émission sur l'appli Radio France ou sur le site franceculture.fr. Et on passe au bref. Aujourd'hui, la campagne de vaccination contre le Covid-19 s'ouvre aux Français et aux Françaises de plus de 50 ans.
Et si vous avez 50 ans et plus, vous pouvez dès aujourd'hui prendre rendez-vous pour vous faire vacciner sans condition. Alors l'avenir du vaccin AstraZeneca dans la campagne vaccinale reste encore un peu flou. Le ministre de la Santé a déclaré qu'il resterait réservé aux plus de 55 ans. Le gouvernement espère vacciner 30 millions de personnes d'ici la mi-juin. Pour l'heure, seuls 34% de la population a reçu sa première dose de vaccin, soit 17,6 millions de personnes. Et à partir de mercredi, si vous avez plus de 18 ans, mais que vous n'êtes pas encore quinquagénaire, le site vitmadose.fr sera ouvert à tous. Vous pourrez dénicher un rendez-vous la veille pour le lendemain pour ne pas gâcher de dose.
En bref toujours, selon une étude parue dans la revue Icarus, sur Mars, les volcans sont peut-être encore actifs.
Oui, d'après cette équipe américaine, plusieurs indices vont dans ce sens. La majeure partie du volcanisme martien est ancienne et s'est produite il y a 3 à 4 milliards d'années. Mais les chercheurs ont découvert, grâce à des observations satellites, un gisement différent, beaucoup plus récent, dans la plaine d'Elysium, au nord de l'Équateur. Il s'agirait d'un dépôt pyroclastique, de nuées ardentes, qui recouvrirait les coulées de lave environnantes et qui serait vieux de seulement 50 000 ans. Géologiquement, c'est très court. Ce jeune âge implique que si ce gisement est bien volcanique, cette région pourrait ne pas être éteinte.
Et enfin, ce week-end en Italie, les archéologues ont fait la découverte d'un impressionnant site néandertalien.
Et dans la grotte de Guattari, sur la côte italienne au sud de Rome, les archéologues ont découvert les restes de 9 Néandertaliens. Un jeune garçon, 7 hommes et une femme. Le plus ancien est vieux de 90 000, voire 100 000 ans. Deux autres hommes de Néandertal avaient déjà été découverts sur ce site. Avec un total de 11 individus, la grotte de Guattari devient l'un des sites les plus importants au monde pour l'étude des Néandertaliens. À leur côté, il y avait des traces de légumes, de rhinocéros, de cerfs géants, mais aussi des ossements de hyènes. Selon les chercheurs, certains de ces humains se seraient fait tuer, puis dévorer par ces prédateurs.
Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences. On ne les voit pas et pourtant elles jouent un rôle clé pour les espèces végétales. Les racines sont de véritables actrices souterraines qui, en plus d'apporter de quoi vivre aux tiges et aux feuilles, modifient leur environnement de façon physique, chimique et biologique. Et elles ne font pas ça seules. Comme souvent, dans le vivant, de nombreuses réactions symbiotiques font que ces racines s'allient avec des bactéries ou des champignons pour se nourrir, se protéger et se développer. Nous allons donc tout au long de cette heure gratter un tout petit peu la terre pour les mettre au jour et lever le rideau sur le théâtre des racines avec vous Catherine Roumet et avec vous Philippe Insinger. Ma première question ira pour vous Philippe Insinger, est-ce qu'on pourrait donner une définition simple de ce qu'est une racine?
La racine c'est l'organe souterrain du végétal. Les végétaux supérieurs, en fait, pas tous les végétaux n'ont pas de racine à proprement parler et c'est l'organe souterrain qui joue un rôle clé qui est l'acquisition de ressources qui sont présentes dans le sol, l'eau et les nutriments dont a besoin la plante en complément du carbone qui est acquis par la partie aérienne de la plante au travers de la photosynthèse.
Catherine Roumet, est-ce que vous verriez un complément à apporter à cette définition de Philippe Insinger?
Non, très bien.
Bon, alors, est-ce qu'on a une idée déjà de la quantité? Est-ce qu'il y a, selon les espèces, une quantité limite de racines que peuvent avoir, par exemple, un chêne, un épi de blé? Ont-ils un nombre limité de racines? Catherine Roumet.
Au niveau des quantités, c'est extrêmement variable d'une espèce à l'autre. Et c'est très difficile à estimer, parce que pour estimer la biomasse racinaire, il faut creuser. Les systèmes racinaires sont très profonds. Donc on a des estimations qui sont assez à la louche, je dirais, de ce qui est biomasse racinaire. Et on appelle les racines souvent la face cachée des végétaux, parce qu'on ne le voit pas, on l'aborde pas, et on a du mal à l'estimer. Mais on estime quand même qu'en fonction des espèces, la quantité de racines produites par une plante peut varier peut-être de 0,1 à 6 fois plus importante que la biomasse aérienne. C'est-à-dire que, par exemple, dans les systèmes de toundra, on a des systèmes aériens qui sont assez rares. On a 6 fois plus de biomasse racinaire que de biomasse aérienne. Par contre, dans les espèces cultivées, où il y a des apports de fertilisants importants, la biomasse racinaire ne représente que 10% de la biomasse totale. Donc, on a une extrême diversité d'allocation du carbone, de la biomasse, entre les parties aériennes et les parties racinaires. Donc ça, c'est déjà énorme, cette face cachée qui est super importante pour la nutrition des végétales, mais aussi qui est importante par rapport au fonctionnement de l'écosystème, parce que ça fait une quantité de carbone, une arrivée de carbone dans le sol qui est très conséquente.
Et on va y revenir à ce fonctionnement, bien évidemment, des racines. Philippe Insinger, avant d'aborder ces questions un peu techniques sur le fonctionnement de ces systèmes racinaires, toutes les espèces végétales, vous le disiez tout à l'heure, n'ont pas besoin nécessairement de racines. À partir de quand remontent les premières espèces végétales qui ont été dotées de racines, justement?
On estime aujourd'hui que la conquête en fait des milieux terrestres par les végétaux, qui au départ étaient essentiellement des algues, des végétaux aquatiques, date de plusieurs centaines de millions d'années. On situe ça plutôt au Dévonien, hein, donc c'est 360-420 millions d'années, avec des premières formes de végétaux terrestres qui ont des... Donc qui sont les mousses, les fougères notamment, qui ont des organes d'ancrage et qui permettent l'acquisition de ressources du sol, mais qui ne sont pas proprement parlés des racines. Et donc l'apparition des racines, c'est toujours difficile à dater puisque c'est sur la base de fossiles. C'est cette période que j'évoquais, donc notamment le Dévonien supérieur, à la limite du Carbonifère, où on a là une accumulation d'un assez grand nombre de fossiles, de tiges, de feuilles, des différents organes, y compris des structures typiquement représentant l'architecture et l'anatomie de racines.
Catherine Roumet, c'est pas très compliqué de distinguer la terre de l'eau, mais qu'est-ce qui distingue ces deux milieux qui fait que les racines sont apparues?
Mais au départ, les végétaux, donc c'était ordovicien à peu près, sont sortis de l'eau. Donc dans l'eau, il n'y a pas de contrainte de pore. Donc les milieux se sont asséchés et les plantes, petit à petit, ont dû se fixer sur le milieu terrestre, dans des milieux, au début, quand on sort de l'eau, où l'eau n'est pas trop limitante, et après dans des milieux de plus en plus secs. Donc la stratégie, ça a été d'émettre des racines capables d'ancrer la plante, parce que dans l'eau, il n'y a pas besoin d'ancrage. Donc d'une part, dans un premier temps, il fallait ancrer la plante dans le sol, donc fabriquer des racines pivotantes et assez ramifiées pour la fixer et la maintenir en hauteur, parce qu'ensuite, il a fallu avoir un port érigé. Et ensuite, il a fallu s'adapter petit à petit à des milieux où la disponibilité en ressources est extrêmement variable, aussi bien disponibilité en eau qu'en éléments minéraux. Et cette adaptation à des milieux très différents, c'est ce qui a créé une grande diversité au niveau des systèmes racinaires qui sont apparus au cours de l'évolution.
Philippe Hinsinger, on reviendra en deuxième partie un peu plus sur les liens symbiotiques entre racines et champignons, mais dès cette époque, dès le Dévonien, il y avait des associations avec des champignons pour ces premières espèces végétales qui étaient dotées de racines ?
Oui, c'est vrai qu'on, quand on regarde les fossiles, on trouve également à la même période déjà des évidences de structures qui s'apparentent à ce qu'on appelle les mycorhizes, donc l'association entre symbiotique entre des racines et des champignons, dits mycorhiziens. Donc ça date effectivement de la même période d'il y a environ 400 millions d'années.
Et Catherine Roumet, à cette époque, est-ce qu'on a constaté dans les strates, dans les analyses de strates qu'on étudie, est-ce qu'on a constaté dès l'apparition des espèces végétales sur Terre avec des racines, une chute dans le taux de CO2 présent dans l'atmosphère ?
Alors il y a eu des grosses variations de teneur en CO2 dans l'atmosphère. Hein. C'est au niveau de au Carbonifère. Mmh. Ouais. Et ensuite au Crétacé. Et au Crétacé, normalement, enfin au départ, ce que disait Philippe, je voudrais rajouter un petit truc.
Bien sûr, allez-y.
Au départ, c'était surtout les végétaux, les racines étaient surtout associées à des champignons mycorhiziens, avec des endomycorhizes. Et ensuite, au niveau du Crétacé, donc c'est au moment où il y a eu une diversification des végétaux. Il y a eu l'apparition de plusieurs formes de types de mycorhizes, notamment des ectomycorhizes, des ericacées, des mycorhizes associées aussi aux orchidées. Et c'est aussi à ce moment-là, au Crétacé, où il y a eu aussi une diminution importante de la teneur en CO2, avec une conséquence sur une baisse de la photosynthèse. Donc suite à cette baisse de la photosynthèse, pour compenser la diminution de l'étape de carboxylation, il y a eu une augmentation du nombre de stomates et donc une augmentation de la vitesse de transpiration des plantes.
Qu'est-ce qu'on appelle les stomates en quelques mots ?
Alors les stomates, ce sont des orifices qui sont à la surface des feuilles et qui permettent les échanges entre le CO2 et entre l'air et l'intérieur de la feuille, des échanges de CO2 et d'eau. Donc la transpiration a été augmentée et donc pour assurer ce flux plus important d'eau dans la plante, les végétaux ont augmenté leur surface d'échange avec le sol pour acquérir plus d'eau dans le sol.
D'accord. Philippe Hinsinger.
C'est une étape aussi clé. Bon, c'est des hypothèses, hein, d'accord.
Philippe Hinsinger, sur cette question-là justement de la coïncidence entre une baisse du taux de CO2 dans l'atmosphère terrestre et l'apparition des espèces végétales terrestres. Est-ce que vous confirmez ce que vient de dire Catherine Roumet ?
Oui, alors effectivement, c'est toujours assez difficile de remonter dans le temps aussi loin, mais on a des grandes équipes de géochimie, de biogéochimie, qui ont aussi souligné qu'il y a une coïncidence, en tout cas temporelle. Catherine insistait sur le Crétacé, sur la période qu'on a évoquée avant, fin du Dévonien Carbonifère, où on a eu une chute très importante de la pression partielle en CO2, la teneur, la concentration en CO2 dans l'atmosphère, hein, qui était 10 fois plus élevée qu'aujourd'hui. à ce moment-là, et qui coïncide avec l'émergence d'une grande diversité d'espèces végétales terrestres, avec une capacité décuplée à réaliser la photosynthèse, en lien avec une capacité bien plus grande d'acquérir les ressources qui sont nécessaires, parce que pour encore une fois, une plante fabrique ses structures avec du carbone issu de la photosynthèse, mais comme tout être vivant, les végétaux ont besoin de, on reconnaît aujourd'hui que c'est 11-12 éléments qui sont absolument essentiels à la vie des végétaux, et ces autres éléments se trouvent dans le sol pour l'essentiel, et ils ont besoin d'eau bien entendu, donc c'est pour être à la hauteur du niveau de photosynthèse qui a cru de façon très rapide à cette période-là, enfin très rapide, étalée quand même sur des millions d'années, on parle d'évolution, il a fallu développer les organes souterrains que sont les racines, les systèmes racinaires, pour être à la hauteur en termes de flux d'eau, en termes de flux d'azote, de phosphore, de potassium, etc., des différents éléments absolument essentiels à la vie.
France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp.
À 16h16, dans la méthode scientifique, nous parlons aujourd'hui des racines et des systèmes racinaires en compagnie de Catherine Roumet et de Philippe Insinger. Catherine Roumet, une question maintenant un petit peu plus. On va venir maintenant à la formation de ces racines. À partir d'une graine, je vais vous poser une question d'enfant, mais à partir d'une graine, comment se développe une racine ?
Donc à partir de la graine, il y a l'émission d'une racine dite séminale qui permet à la plantule de s'ancrer. Et ensuite, cette racine se ramifie en des axes, des axes secondaires et tertiaires, jusqu'à arriver à des systèmes qui peuvent avoir des architectures très différentes. Donc on peut avoir des systèmes pivotants à partir d'une racine pivotante et de ramifications secondaires, c'est le cas chez les dicotylédones. Et on peut aussi avoir développement de systèmes racinaires de type fasciculé, où les racines partent d'un plateau de talage, par exemple pour tout ce qui est monocotylédone, donc d'un plateau de talage pour les graminées, ou bien d'un bulbe pour l'oignon, par exemple, pour les plantes à bulbe. Et dans ce cas-là, on a des racines qui partent en faisceau à partir d'un point commun, d'un plateau, soit d'un bulbe, soit d'un plateau de talage. Et
c'est pour les deux grands types de systèmes de racines, hein, la racine pivotante, les racines latérales ramifiées. Si on en vient maintenant à la structure propre de la racine, ses composantes, quelles sont-elles ?
Alors le système racinaire est un système très hiérarchique, donc qui est formé d'axes primaires, d'axes secondaires, d'axes tertiaires, et qui se termine par des zones apicales qui sont les zones de croissance et qui sont les zones qui assurent principalement l'absorption des nutriments et de l'eau.
Comment la racine absorbe-t-elle ces nutriments et cette eau ? C'est par un système un petit peu duveteux, c'est comme des poils, c'est ça ? Catherine Roumet ?
Alors, il y a les poils absorbants, effectivement, dans la zone de croissance, au-dessus de la zone de croissance, il y a une zone pilifère où on trouve énormément de poils absorbants, mais pas simplement, on en trouve des fois bien plus haut, qui assurent l'absorption des éléments minéraux, mais pas simplement, l'absorption se fait aussi le long de la racine en croissance. Les autres, en dehors de ces zones de croissance, il y a les zones qui sont des zones qui sont moins actives, mais qui permettent de transporter les nutriments et l'eau jusqu'aux parties aériennes. Et puis il y a des zones qui sont des zones de stockage, comme par exemple les racines tubérifiques qui assurent le stockage des composés carbonés ou des nutriments, notamment dans les zones dans les racines tubérifiques, c'est essentiellement des carbohydrates. Après, pour ce qui est absorption, peut-être Philippe, tu peux en parler un peu plus.
Philippe Insinger.
Complément, pour revenir sur les poils racinaires, on préfère dire racinaires que les poils absorbants, parce qu'en fait, ce sont bien des toutes petites structures qui sont des cellules de l'épiderme des racines et qui s'allongent et permettent de prospecter jusqu'à quelques millimètres, dans les plus longs, de la surface des racines. Le sol, et donc acquérir de l'eau ou des nutriments qui sont un petit peu plus loin de la surface. Ce sont des structures très importantes parce qu'elles permettent, avec un peu de carbone qu'investit la plante, d'augmenter fortement la surface d'échange avec le sol. Mais par ailleurs, ce ne sont pas les seuls lieux de l'absorption, comme l'a dit Catherine. Mm-hmm. L'ensemble des cellules de l'épiderme et même à l'intérieur d'une racine, ce qu'on appelle le cortex, ce sont d'autres lieux de l'absorption. Ça varie suivant la nature de ce dont on parle. L'eau, les nutriments et les différents nutriments ne sont pas tous absorbés selon les mêmes processus et au même lieu. Mais il y a une contribution effectivement des poils racinaires. Une autre que j'aurais bien aimé évoquer ici par rapport à ce qu'a dit Catherine, c'est ces poils racinaires. On s'est aperçu finalement assez récemment qui jouait un rôle absolument clé dans l'ancrage de la plante au tout démarrage de sa vie. C'est-à-dire, tout le monde a déjà fait germer un haricot, et on voit la radicule qui sort en premier, ce duvet qui correspond aux poils racinaires. Et en fait, ce qui a été démontré, c'est que ces poils racinaires, ils sont essentiels pour cet ancrage dans le sol, pour que la racine, la radicule, la première racine, la racine séminale, puisse s'enfoncer, progresser dans le sol. L'ancrage est assuré par les poils racinaires, en fait, qui forment des liens avec les petits agrégats de sol et permet à la radicule de se développer à l'intérieur du sol. En l'absence de poils racinaires, une plante, en fait, n'arrive pas à pénétrer à l'intérieur du sol, à frayer son chemin à l'intérieur du sol. Donc, ils ont aussi ce rôle-là au-delà de l'absorption.
Proportionnellement à la taille de la plante, est-ce qu'on a une idée de la vitesse moyenne de croissance de ces racines, Catherine Roumet ?
Alors, en moyenne, la vitesse de croissance des racines, on estime que c'est à peu près de 0,5 à 5 cm par jour. Encore une fois, c'est très variable en fonction des espèces et aussi des conditions de température et d'humidité du sol. Parce que les racines poussent préférentiellement dans... Il y a une corrélation assez étroite entre la vitesse de croissance et l'humidité du sol, et aussi avec la température, sachant que la croissance en dessous des températures de 8 degrés, elle est fortement ralentie.
Vous le disiez à l'instant, Catherine Roumet, il y a toute une variété de racines. Et à propos de ces variétés et de ces grands types spécialisés de racines, je vous propose d'écouter une archive. Il s'agit de Gilbert David qui nous parle d'un arbre tropical un peu spécial qui a trouvé une solution originale pour ses racines. C'était en 2018 au micro d'Aurélie Nuno sur France Culture.
Les palétuviers ont deux gros problèmes. Ils ont un problème de salinité, bon, et donc c'est régulé par ce qu'on appelle la pression osmotique, qui est un petit peu beaucoup plus élevée que les végétaux terrestres. Et puis, ben, le sol. Dans le sol, quand vous avez un arbre, il y a énormément d'air dans le sol. Le sol dans lequel se développent les palétuviers a un problème, c'est qu'il n'y a pas d'air. Or, les racines ont besoin d'air, enfin, les arbres ont besoin d'air pour survivre. Donc, la solution, c'est d'au lieu d'avoir des racines dans le sol, on a des racines aériennes. Que ce soit des racines échasses ou des racines qui sortent un petit peu comme les petits doigts qui sortent de la vase et qu'on appelle des pneumatophores. Et qui permettent donc à l'arbre, eh bien, d'avoir sa dose d'air, si on peut dire, pour pouvoir assurer son développement.
Voilà pour cette archive de 2018. Philippe Insinger, on comprend en l'écoutant qu'il y a toute une gamme, une variété de racines spécialisées. Les racines, finalement, c'est la preuve que les arbres sont opportunistes. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu certains de ces types spécialisés de racines qui vous semblent un peu intéressants ?
Alors, c'est les arbres et l'ensemble des végétaux, hein, les plantes herbacées aussi. Je dirais que pour poursuivre sur cet exemple-là du palétuvier, en fait, on a énormément d'espèces sont encore des espèces qui poussent soit dans les marécages, soit dans les milieux plus ou moins aquatiques. En agriculture, il y en a une qui est très importante à l'échelle mondiale, c'est le riz. Le riz.
Oui.
Une espèce comme celle-là, ce qui a été montré, et en fait c'est partagé avec pratiquement toutes les espèces qu'on trouve dans ces milieux où au contraire il y a beaucoup d'eau et du coup un déficit d'oxygène, c'est que certaines ont les fameux pneumatophores, mais chez le riz et de nombreuses autres espèces, notamment herbacées, en fait on a à l'intérieur des racines ce qu'on appelle un aérenchyme. En fait, c'est des tissus qui permettent de conduire cette fois-ci l'oxygène en particulier, depuis les parties aériennes, depuis les feuilles, jusqu'à l'extrémité des racines, et donc qui permettent aux racines de respirer alors qu'elles sont dans un milieu où il y a un vrai déficit d'oxygène. Et ce faisant, d'ailleurs, une partie de cet oxygène diffuse à l'extérieur et contribue à modifier les propriétés de l'environnement des racines. Donc ça, c'était un petit complément sur cette question de l'adaptation à un déficit d'oxygène. Effectivement, il y a une grande diversité chez les systèmes racinaires. On reparlera aussi de la plasticité, c'est-à-dire chez une même espèce, suivant les conditions de milieu, elle peut réaliser des systèmes racinaires aux proportions assez variables et qui mettent en jeu des fonctionnements qui peuvent varier. Et on a aussi, dans cette diversité, des formes assez différentes, donc des grands types qui caractérisent, et Catherine pourrait en parler plus que moi, les grands types comme les systèmes pivotants versus, au contraire, les systèmes fasciculés, donc pivotants avec une racine maîtresse qui définit l'architecture très hiérarchisée. C'est ce qu'on observe chez beaucoup d'arbres, typiquement. Mm-hmm. Chez des espèces annuelles comme la luzerne et d'assez nombreuses espèces finalement. Et puis on a des systèmes très fasciculés où part de la base de la plante un très grand nombre de racines qui sont à peu près équivalentes en termes de dimension. Et c'est ce qu'on observe chez beaucoup de plantes herbacées aussi, en particulier la grande famille des poacées ou graminées, dont les céréales. Et à côté de ces grands types, alors il y a après plein de spécialisations, il y en a qui ont été très étudiées parce qu'elles sont intéressantes à la fois d'un point de vue de leur architecture, de leur anatomie et de leur fonctionnement, de leur physiologie. C'est, je pense en particulier à ce qu'on appelle les racines protéoïdes ou en cluster, qui ont été très étudiées chez des espèces présentes en Australie dans des milieux très très pauvres en nutriments. La grande famille des protéacées, on en trouve certaines en plantes ornementales là, chez les fleuristes.
Les fameuses plantes succulentes qui stockent l'eau, c'est ça?
Non, c'est ça, au contraire. C'est la famille des protéacées, donc il y a Banksia, Akea, il y en a un certain nombre, Protea. C'est plutôt des plantes, des arbres en général, des arbres, des arbustes, mais qui poussent dans des milieux souvent assez arides. Donc il y en a essentiellement en Australie et en Afrique du Sud, un tout petit peu en Amérique du Sud. Extrême sud de l'Amérique du Sud, mais ce sont dans des milieux très pauvres en nutriments en général et très pauvres en eau. Et paradoxalement, on va y venir tout à l'heure, mais ce sont des espèces qui n'ont pas développé de symbiose avec les champignons mycorhiziens. Et on pourrait dire en contrepartie, ils ont développé des mécanismes, dont des architectures de systèmes racinaires et d'anatomie de systèmes racinaires très particulières. Et en fait, le développement, c'est un peu des racines qui ressemblent à des écouvillons, où on a juxtaposé les unes à côté des autres de très nombreuses petites racines avec beaucoup de poils racinaires et qui se développent dès qu'il y a une pluie qui arrive, qui se développe sous la litière, à la surface du sol, pour essayer de capter le peu d'eau qui arrive et le peu de nutriments qui sont solubilisés dans ces conditions. Et c'est un système très efficace. Donc c'est un autre type de racines spécialisées. Il y en a d'autres avec des formes de carottes, c'est ce qu'on appelle des racines d'ossiformes, mais en fait, là aussi, ce sont des racines qui développent énormément de poils racinaires et des poils racinaires très longs au niveau de petites racines très nombreuses.
On peut penser aussi aux racines crampons du lierre ou alors aux racines aériennes de certaines espèces tropicales, Catherine Roumet, qui prouvent la variété et finalement le caractère opportuniste des espèces végétales.
Des racines contreforts là, qui permettent de soutenir qui remontent le long du tronc pour soutenir un peu les branches ou qui permettent le maintien aérien de la plante. Donc ça, c'est des exemples. Et oui, effectivement, il y a les racines crampons du lierre, par exemple.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Il y en a toute une variété.
Ouais.
Si on se penche maintenant un petit peu, parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment fascinant dans les systèmes racinaires et dans les racines, c'est qu'elles ont quand même des qualités, on va le dire entre gros guillemets, sensorielles. Qu'est-ce que peuvent percevoir dans le sol les racines, Philippe Insinger? Quel type de paramètres?
Alors c'est un domaine en pleine expansion. On s'est aperçu depuis déjà quelques années, enfin même décennies, on pourrait dire, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus étudié, a été beaucoup plus étudié récemment. L'aptitude effectivement des plantes et en l'occurrence aussi du système racinaire des plantes de percevoir leur environnement, donc à la fois physique, chimique, biologique, et de, au travers de cette perception, à la fois de s'adapter à cet environnement. Et je dirais que ce qui est assez particulier au système racinaire, c'est que l'adaptation, elle passe aussi beaucoup par finalement une adaptation, une modification de l'environnement des racines, du système racinaire, en essayant de faire en sorte, entre guillemets, hein, sans être anthropocentriste, que ce soit pour le bénéfice au final de la plante. Mmh. Ça marche pas à tous les coups. Effectivement, il y a des modifications dont sont responsables les racines au niveau de leur environnement qui, au final, peut être délétère, enfin avoir des effets négatifs sur le fonctionnement de la plante. Mais très souvent, en fait, ce sont des mécanismes qui sont mis en œuvre pour la plante. C'est une question de survie, en fait. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que la grande différence entre le monde végétal et le monde animal, c'est que dans le monde animal, l'animal a très souvent la possibilité de se déplacer. Et donc, s'il rencontre des difficultés d'acquisition de ressources, si son milieu lui est défavorable, il a cette possibilité de se déplacer, dans une certaine mesure, vers des environnements plus favorables. La grande différence chez le végétal, c'est que la graine qui est tombée à un endroit donné dans un sol, eh bien, elle doit survivre avec cet environnement, elle n'a guère le choix. Et donc, ce qui a été développé dans l'évolution des végétaux, c'est de très nombreuses stratégies, on peut dire, qui permettent d'une part de percevoir ce qu'est cet environnement et puis répondre à ces caractéristiques de l'environnement de différentes façons. Mais en grande partie, ça se traduit au final par des modifications de cet environnement. Alors, physique, hein, les racines contribuent à créer de la porosité pour pouvoir pénétrer à l'intérieur du sol, à structurer, à agréger le sol pour faciliter la circulation de l'eau, des nutriments, de l'oxygène. Mais aussi, elle façonne beaucoup le sol. Bon, je pense qu'on va en reparler plus tard au travers d'interactions biologiques complexes. Mmh. Et elles sont un peu à la base des réseaux trophiques dans les sols.
Les interactions biologiques et chimiques, on y reviendra effectivement tout à l'heure. Catherine Roumet, vous l'évoquiez en début d'émission, les différentes fonctions des racines, des fonctions d'ancrage, d'absorption, de nutriments, de réserve de ces nutriments. D'un point de vue, à nouveau, question d'enfant, comment de ces racines, au tronc puis aux branches, s'effectue le transport de ces nutriments absorbés par les racines ?
Alors déjà, le premier transport, c'est la racine n'est pas... a besoin de carbone pour se développer. Donc, la première chose, c'est qu'elle est dépendante complètement de la photosynthèse des parties aériennes, donc les feuilles qui interceptent la lumière et le CO2, les transforment en glucose, en saccharose, pour les exporter vers les racines. Donc ça, c'est le flux qui est le flux de la sève élaborée, des feuilles vers les racines. Ensuite, dans les racines, ce carbone, il est utilisé, il est géré. Donc, on parle souvent de gestion des ressources par les racines, un peu comme par analogie avec avec des théories en économie. On parle de la gestion des ressources carbonées. Donc, la racine reçoit ce carbone des parties aériennes et elle l'utilise de différentes manières, de manière à optimiser l'acquisition des ressources minérales et hydriques. Donc, elle acquiert ces ressources minérales et hydriques et ensuite, via le flux de sève brute, l'eau et les éléments minéraux traversent d'abord la racine, et ensuite rejoignent les faisceaux du xylème qui pourraient être transportés ensuite dans les parties aériennes.
Philippe Insinger, vous disiez tout à l'heure qu'on avait un petit peu un point de vue anthropocentré en qualifiant de perception sensorielle des racines. On parle souvent de communication. Là, on va parler de communication des racines entre elles. Il y a un mot qui s'appelle l'anastomose. Est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est cette communication et ce partage des ressources entre racines ?
Alors, il y a l'anastomose et puis il y a le partage des ressources. C'est deux choses un peu différentes. L'anastomose, en fait, c'est quelque chose qui est propre à... qui ne se rencontre pas chez tous les végétaux. C'est plutôt chez les végétaux ligneux, et les arbres en particulier. En plus, c'est assez facile pour tout le monde de pouvoir l'observer, puisque ça se produit parfois même pour les racines qui sont à la surface du sol, celles des arbres. En fait, l'anastomose, c'est le fait que des racines différentes d'une même plante, et on a même montré de plusieurs individus d'une même espèce, voire d'espèces différentes, se soudent, se croisent, et puis à un moment, se soudent, partagent des structures. Et ces structures partagées, une fois qu'on en est là, permettent la communication, le partage de ressources, en l'occurrence, le transfert d'eau, d'éléments nutritifs, de carbone, de composés carbonés, d'une espèce à l'autre, quand il s'agit d'espèces différentes, ou entre individus d'une même espèce, deux arbres, deux êtres qui sont voisins dans une forêt, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, mais qui ne concerne pas tous les systèmes racinaires. Et notamment chez les herbacées, on n'a pas ces phénomènes d'anastomose. Mais en revanche, il y a d'autres systèmes deux autres, on va dire. Un qui est extrêmement important, qu'on étudie de plus en plus, qui est le rôle de ce qu'on appelle les réseaux mycorhiziens partagés ou communs. C'est la symbiose, une des symbioses racinaires importantes, qui est la symbiose, donc l'association entre un champignon mycorhizien et un végétal. Et ce champignon mycorhizien crée un réseau de mycélium, d'IF, et ce dont on s'est aperçu, donc qui permet à la plante, qui est connectée aux racines d'un végétal, et qui permet en échange de carbone qu'il perçoit de la plante, fournit en retour des éléments, l'azote, le phosphore, le zinc, et de l'eau. Et c'est là qu'on parle de symbiose, puisque c'est une association à bénéfice réciproque. Ce qu'on a montré plus récemment, c'est que finalement, ces filaments mycéliens qui colonisent le sol et permettent de prospecter davantage le sol, donc au bénéfice d'une plante, ils sont éventuellement capables aussi de connecter deux plantes voisines, encore une fois, d'une même espèce, voire d'espèces différentes. Et du coup, ils constituent une autre forme d'association des espèces ou des plantes d'un même pré ou d'un même champ. Mmh. Et qui permettent là aussi de faire circuler de l'eau, du carbone, des éléments nutritifs et de l'information, c'est-à-dire toutes les molécules impliquées dans la communication entre les espèces végétales et le reste du monde vivant dans le sol.
Et là, vous prenez un petit peu d'avance, puisque ce sera le sujet du reportage du jour dans un instant, tout de suite après la musique.
I'm not afraid to die.
Pair of Glass de Balm dans la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons depuis le début de cette heure des racines et des systèmes racinaires avec nos invités Catherine Roumet, chargée de recherche CNRS au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, et Philippe Insinger, chef du département agroécosystème à l'INRAE de Montpellier. Alors on a évoqué la structure et les fonctions multiples de ces racines, des fonctions qui ne pourraient pas être totalement remplies pour une bonne part d'espèces végétales sans de subtils mécanismes de symbiose avec des champignons, on le disait à l'instant, mais aussi des bactéries. Et c'est ce mécanisme d'interaction avec des bactéries qui est étudié à l'Institut des sciences des plantes à l'Université Paris-Saclay, où vous vous êtes rendu pour le reportage du jour. Céline Lozen, bonjour.
Bonjour Antoine. Oui, dans ce laboratoire, on fait pousser des milliers de plantes en serre et dans des chambres de culture, dans des frigos. Des expériences où on étudie la croissance des racines et nodules au niveau moléculaire en faisant varier la température, l'hygrométrie ou d'autres facteurs physico-chimiques pour reproduire au mieux le milieu naturel. Florian Frugier, directeur de recherche au CNRS, a étudié, lui, entre autres, des espèces de légumineuses et notamment comment des bactéries du nom de Rhizobia assurent par symbiose la conversion du diazote de l'air en ammoniac, un élément assimilable par le système racinaire et nécessaire à son bon développement.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est ces aspects développement et signalisation, régulation. Au niveau de la pointe des racines, comment les bactéries vont entrer en contact avec les surfaces d'échange de la racine qui sont les poils absorbants, comment elles vont être reconnues, comment elles vont pénétrer. Mais en fait, il y a toute une série de mécanismes à longue distance, à travers de tout l'ensemble de la plante, qui fait intervenir des signalisations, donc non seulement locales au niveau des racines, mais aussi avec les parties aériennes, donc les feuilles, les parties aériennes.
Quand vous parlez de voies de signalisation, on parle de molécules, on parle d'hormones, on parle de quoi exactement ?
Donc voilà, il y a des hormones chez les plantes comme chez les animaux, et il y a différents types d'hormones. Donc classiquement, d'un point de vue historique, on a défini les hormones végétales comme des petites molécules. Et récemment, on s'est aperçu aussi qu'il y avait des hormones peptidiques, donc qui sont des petites protéines. Et nous, on s'est intéressé récemment à cette interconnexion entre ces hormones peptidiques qui sont plus récemment connues chez les plantes et les hormones plus classiques qui sont non peptidiques. Donc on a différentes classes d'hormones et de peptides qui nous intéressent.
Donc là, sous les yeux, on a un visuel de ces systèmes racinaires où on voit par imagerie en fluorescence certaines structures. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette conversion d'azote en ammoniac, par exemple, là ?
Donc là, ce qu'on voit sur la droite, c'est les bactéries qui sont marquées, fluorescentes. Et donc, on peut repérer leur progression dans la racine du moment où elles vont être connues, où elles vont être pénétrées, guidées par la plante, dans ces structures en émergence que sont les nodules, les nodosités. Et on combine ça avec des approches de génétique aussi, où on peut identifier des plantes mutantes qui sont affectées dans cette capacité de nodulation. Et donc, en combinant ces approches de biologie cellulaire, de génétique, on peut comprendre pourquoi, et en clonant les gènes responsables de ces mutations, ils sont affectés. Donc là, on arrive dans la serre.
Donc là, et combien de degrés, là, environ ?
Donc là, en fait, on peut régler les compartiments quand il y a une certaine température. Donc, on est entre 22, 24. Donc là, au milieu, on a la chapelle, là, on appelle ça. Et puis, c'est réduit en taille pour les compartiments, où on a différents espaces qui sont répartis selon les plantes. Donc là, c'est la plante modèle Arabidopsis, qui est beaucoup utilisée dans l'Institut. Mais on a la spécificité à l'IPS2 d'avoir aussi des plantes agronomiques directement, ou des modèles plus proches des plantes d'interagronomie, comme les légumineuses. Voilà, donc là, c'est des plantes de taille impressionnante. On est passé d'Arabidopsis, qui fait 30 cm maximum, à là des plantes qui, même quand ça va continuer, elles vont aller au-delà des lampes. On va arriver à faire des fruits, hein, donc on peut avoir des melons, voilà, là il y a des haricots, donc on a la spécificité, on est autosuffisant d'avoir une très grande diversité de plantes qui vont des plantes modèles, où on a plein d'avantages pour les étudier au laboratoire, au niveau moléculaire, on dispose des génomes, de capacité de les transformer, vers des plantes plus difficiles à étudier en laboratoire à la paillasse, mais qui sont plus proches des plantes d'intérêt agronomique. Donc on peut aller vers d'autres espaces de culture, donc plus contrôlés. Donc voilà, là on arrive au sous-sol. Ici c'est les hautes flux laminaires. Donc en fait c'est des grands espaces où là c'est stérile. il y a un flux horizontal qui empêche qu'il y ait des
contaminations.
Et donc c'est là qu'on fait toutes les manipulations in vitro dans ces espaces-là. Donc toujours les chambres de culture, donc plus contrôlées. Et là, pareil, on a des climats différents puisqu'on a pas mal de plantes. Donc là, Brachypodium, c'est un modèle de céréales. Donc on voit là les températures, c'est assez frais. Ah non, 24, ça va.
24 le jour et 19 la nuit.
Voilà, donc on peut faire du blé aussi. Et ici, les plantes légumineuses qui nous intéressent. Voilà, ici, on contrôle tout, la lumière, l'hygrométrie, la température. Donc c'est beaucoup plus contrôlé que dans la serre, quelle que soit l'époque de l'année.
Excusez-moi, c'est la même espèce ou parce qu'il y a des étiquetages différents?
Donc soit c'est des mutants, soit c'est des approches, le CRISPR-Cas9 ou l'ARN interférence. Donc là, il y a une plante ARNAI, donc c'est ARN interférence, c'est son contrôle. Donc par exemple, là, on veut voir quel est l'effet éventuel du gène qu'on a éliminé dans la plante sur la nodulation, sur la capacité de la plante à noduler. Après, on peut faire des traitements aussi. On peut mettre sans et avec rhizobium. On peut aussi mettre avec de l'azote, sans azote. Voilà. Donc on essaye de randomiser les plateaux. Donc on met un peu les différents contrôles répartis aux différents endroits pour éviter d'avoir des biais en fonction des éclairages ou des choses comme ça. Ouais, donc il y en a plein, des chambres comme ça, pour toutes les différentes plantes. Et le dernier niveau, c'est pour la culture in vitro. Donc on a tout, ici, on a des chambres à 37 degrés pour faire pousser les bactéries, les colibacilles qui nous servent à faire les clonages, à 30 degrés pour faire pousser les rhizobiums, à toutes sortes de climats pour les plantes, 24, 20, 18. Et puis après, à 10 degrés pour conserver les graines avec une hygrométrie réduite. Puis on a aussi des chambres à 4 degrés, des chambres à moins 20, et les fameux frigos aussi à moins 80, là, qui servent à conserver certains des vaccins, mais qui nous permettent de conserver les collections de bactéries. Et puis aussi du matériel, quand on extrait des plantes, on veut les figer. Et rien de mieux qu'un bain d'azote liquide et un frigo à moins 80 pour après pouvoir extraire les ARN, l'ADN et faire les analyses moléculaires qu'on fait.
Voilà pour le reportage du jour à Saclay. Une réaction à ce reportage, Catherine Roumet?
Oui, ça montre un petit peu la complexité des équipements. Oui. C'est pas mal axé sur les outils d'études des plantes et puis des mécanismes, les compréhensions des mécanismes entre les bactéries fixatrices et les plantes. Voilà, il y avait un peu de tout. Il y avait des légumineuses, il y avait des graminées. Donc, c'était surtout les méthodes de culture. Je dirais que ces légumineuses, quand même, c'est des associations qui sont extraordinaires. Enfin, la capacité de s'associer avec des bactéries du genre Rhizobia pour former des nodosités et ensuite capable de transformer, de réduire l'azote sous forme de dioxyde, donc N2, en NH3. Il faut une énergie considérable parce que c'est une triple liaison qui est entre ces deux atomes d'azote. Et donc, il faut une énergie considérable pour transformer cet N2 en NH3. Dans l'industrie, je ne sais plus combien de mégajoules il faut, mais c'est quelque chose de colossal et extrêmement coûteux. Et là, une petite bactérie type rhizobium est capable de le faire au sein d'une nodosité. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Mais ça coûte quand même assez cher à la plante parce que il faut énormément d'énergie sous forme d'ATP ou de pouvoir réducteur. Et donc, c'est un processus qui permet à la plante d'obtenir son azote indépendamment de la nutrition, de l'azote minéral du sol, puisqu'il prend l'azote gazeux qui est dans l'atmosphère du sol et la plante en association avec la bactérie fixatrice réduit cet azote en NH3 et ensuite le véhicule au niveau des parties aériennes et de l'ensemble de la plante. Et ces légumineuses, elles sont extraordinaires. Du coup, elles sont indépendantes de l'alimentation en azote minéral du sol. Donc, ça leur permet de s'installer dans des milieux très pauvres en azote et ensuite d'enrichir le sol en azote. Parce qu'une fois qu'elles sont installées, après, à leur sénescence, les feuilles retombent et les feuilles et les racines se décomposent et apportent de l'azote au sol. Donc, elles permettent d'enrichir le sol et elles sont utilisées pas mal en restauration dans des sols très dégradés pour reconstituer un petit peu du sol et de la matière organique et d'enrichir en azote le sol. Et quand elles sont en association avec d'autres plantes, eh bien c'est aussi des associations qui sont très bénéfiques et qui permettent à d'autres espèces de mieux se développer puisque ces légumineuses sont en compétition pour l'acquisition de l'azote minéral.
Donc on comprend les
bactéries. Des associations légumineuses graminées, parce que ça, la graminée profite bien du fait que la légumineuse n'utilise pas l'azote minéral du sol et en plus restitue de l'azote au sol.
On comprend bien, là, les bactéries sont très présentes dans ces interactions symbiotiques. On le disait un tout petit peu avant la musique, les champignons, Philippine Singer, jouent aussi un rôle clé pour les racines. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu les grands types de ce qu'on appelle la mycorhize et puis quelles fonctions jouent les champignons pour les racines ?
Alors oui, là on vient d'évoquer une des symbioses, la symbiose avec les bactéries du genre Rhizobia. Il faut bien insister sur le fait que c'est une symbiose qui est très connue chez les légumineuses. Il y a d'autres espèces qui sont capables d'interagir avec d'autres bactéries et qui peuvent acquérir l'azote de l'atmosphère, mais c'est réduit quand même à une gamme d'espèces végétales réduites. Alors que, à l'opposé, l'autre grande symbiose, qui est la symbiose mycorhizienne, c'est plutôt une symbiose qui domine le monde végétal, où on a des exceptions, des espèces, des familles même, qui ne forment pas cette symbiose avec les champignons mycorhiziens.
Est-ce qu'on sait pourquoi ?
Non, mais on a des explications qui renvoient à quelque chose que j'ai évoqué tout à l'heure, des plantes qui ont développé
des structures physiques,
qui permettent finalement à la plante de pallier, enfin de ne pas avoir besoin de recourir à cette symbiose. Les fameuses plantes que j'évoquais tout à l'heure, les protéacées, ne forment pas de symbiose mycorhizienne parce qu'elles ont des structures spécialisées qui finalement sont très efficaces pour acquérir l'eau et les nutriments. Et il se trouve qu'il y a une légumineuse qui présente ce type de structure, c'est le lupin blanc. Il a des racines qui forment des architectures, des anatomies tout à fait analogues à celles qu'on a chez les protéacées. Et c'est un peu une exception chez les légumineuses, puisque celle-ci n'est en général pas mycorhizée, alors que toutes les légumineuses et en gros 80-90% des espèces de végétaux supérieurs le sont. Alors il y a des grandes familles, il y a deux grands ensembles, et c'est plus compliqué que ça, mais oui. Ce qu'on appelle les mycorhizes à arbuscules, ou ce qui font partie des endomycorhizes, celles qui sont les plus répandues et qui forment les associations avec les plus grandes diversités d'espèces. Et notamment toutes les espèces herbacées développent ce type d'association, un certain nombre d'arbres également. Ce sont des structures qui sont très difficiles à observer, on est obligé de les observer avec un microscope. C'est des structures qui sont visibles à l'intérieur des racines, et qui sont en fait notamment des structures d'échange qui sont développées à l'intérieur des racines et qui permettent aux champignons d'acquérir les sucres, le carbone qui lui vient de la plante. Il en est vraiment dépendant. Et en contrepartie, sachant que ce n'est pas toujours totalement équitable de cette symbiose, c'est toujours le problème des symbioses, le champignon fournit de l'eau, des nutriments qu'il a pu acquérir dans le sol. Et c'est ça l'intérêt pour la plante, c'est que ce champignon, avec ses structures très très fines, très ramifiées, éventuellement, peut prospecter des volumes de sol auxquels ces poils racinaires, ces racines n'ont pas accès.
C'est-à-dire que le champignon joue en quelque sorte le rôle d'éclaireur pour la racine. La racine ne peut pas autant se développer que lui, et lui va chercher les nutriments plus loin.
Plus loin et dans des micropores du sol plus petits, puisque ce sont des structures avec des diamètres beaucoup plus fins que les structures racinaires. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est le rôle de toutes les mycorhizes, c'est d'augmenter vraiment la surface de sol prospectée avec ces structures très très fines qui éventuellement, comme on l'a déjà évoqué, interconnectent des plantes entre elles, qu'elles soient de la même espèce ou d'espèces différentes. Donc je disais, il y a une grande famille et puis il y a une autre grande famille qu'on appelle les ectomycorhizes, qui sont des associations qu'on retrouve plutôt du coup chez des essences forestières, chez les arbres de nos forêts. La plupart ont ce type d'association. Et là, la chance qu'on a, c'est que ce sont ça donne lieu à des architectures très particulières et visibles à l'œil nu, avec des formes, des couleurs très particulières, des ramifications. Les racines, en général, sont colonisées par les champignons ectomycorhiziens, cessent leur élongation et elles forment des petites racines souvent ramifiées en forme de Y ou des formes beaucoup plus globuleuses. avec des couleurs différentes de la couleur initiale du système racinaire et qui sont très dépendantes là du coup des espèces de champignons mycorhiziens. Parmi ces espèces vous parle sans doute à tous puisqu'il y en a beaucoup d'entre elles qui sont qui donnent lieu à des fructifications qui sont les champignons comestibles. Alors pas tous, mais un certain nombre d'entre eux sont des champignons ectomycorhiziens associés à des arbres. Alors, il y en a qui sont très célèbres, hein, la truffe associée au chêne ou au noisetier est un champignon mycorhizien et donc rentre dans cette catégorie des ectomycorhizes. Et puis il y en a de nombreux autres, les cèpes, les lactaires sont aussi des champignons ectomycorhiziens.
Sur ces interactions symbiotiques, Catherine Roumet, quel bénéfice ça apporte à la richesse d'un sol, ces interactions-là et cette diversité, on va dire, d'interactions entre racines et champignons? Quelles conséquences ça a sur, on va se mettre d'un point de vue d'un agriculteur par exemple, sur la productivité d'un sol, entre guillemets?
Je voudrais revenir un petit peu sur ce qui s'est dit avant, parce qu'en fait, dans les végétaux, il y a plusieurs stratégies d'acquisition des ressources. Donc, il y en a une qui est basée sur les racines fines qui exploitent le sol par elles-mêmes, donc qui développent des racines très fines et très ramifiées. Et à l'opposé, il y a des racines qui ont des diamètres plus importants et qui, parce qu'elles sont capables d'héberger les champignons mycorhiziens. Les champignons mycorhiziens, ils sont hébergés essentiellement dans la zone corticale. Donc dans la racine transversale, il y a la stèle et autour, il y a la zone corticale. Et ces arbuscules dont Philippe parlait sont localisés dans les cellules de la zone corticale. Et donc, pour pouvoir héberger ces champignons mycorhiziens, il faut développer des cortex assez importants, donc des racines qui ont des forts diamètres par rapport aux autres. Donc, je citerai l'exemple, par exemple, des jacinthes ou des oignons, que vous connaissez bien et qui ont des racines très grosses, très blanches, avec une zone corticale importante, parce que comme elles ont des racines non ramifiées, donc elles ne sont pas capables d'aller exploiter le sol par elles-mêmes de façon très fine, elles sont par contre hébergées par des champignons mycorhiziens qui exploitent le sol à leur place. Et donc, ils vont très finement aller explorer à l'intérieur des agrégats et tout ça. Et à l'opposé, quand les racines sont moins mycorhizées, donc vous parliez des espèces qui n'étaient pas dépendantes des mycorhizes, ça existe, et c'est surtout dans les formes les plus évoluées des végétaux. Là, ces racines n'accueillent pas peu de champignons mycorhiziens, et donc elles ont des racines très fines. Donc, c'est une stratégie, soit on exploite par soi-même le sol avec des racines très très fines, soit on a des racines grossières qui ne permettent pas d'exploiter le sol, mais on fait appel à une symbiose mycorhizienne pour acquérir les ressources du sol. Alors maintenant, pour en revenir à votre question, c'était comment la symbiose...
Très très brièvement, puisque malheureusement on arrive déjà à la fin de notre émission, sur les impacts qui pèsent sur les mycorhizes, les poids qui pèsent sur les mycorhizes actuellement.
Oui, alors c'est par rapport au fonctionnement du sol. Bon, les mycorhizes sont importantes. De plus en plus, on s'en rend compte parce que c'est un apport de carbone dans le sol important. Donc, je ne sais pas si c'est un point que vous voulez aborder ça avec Philippe. C'était l'importance des racines par rapport à la séquestration du carbone. D'une part, parce que les racines ont une masse très importante, on peut dire jusqu'à 6 fois plus importante que les parties aériennes. Et donc, c'est le seul entrée de carbone dans le sol.
Eh bien, écoutez... Donc, je suis vraiment désolé, on doit finir, mais on aura l'occasion d'en reparler dans l'émission de toutes ces poids qui pèsent sur les interactions symbiotiques des racines avec leur environnement. Un grand merci à vous deux, Catherine Roumet, Philippe Insinger, d'être venus tout au long de cette heure nous parler des capacités fascinantes de ces systèmes racinaires. Un grand merci également à toute l'équipe de la méthode scientifique. Merci également au technicien aujourd'hui, Ludovic Auger. Demain, nous nous retrouverons pour une émission dédiée à Titan, le satellite de Saturne, qui est l'un des satellites les plus étudiés du système solaire. À demain.